Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Eli ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans ce chapitre-là. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de l'ironie, ce type d'humour que le petit Robert décrit de cette manière. La manière de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce que veut faire entendre. À titre d'exemple, lorsque les gens me disent « Oh Trevor, que tu es jeune, intelligent, beau, mince et sportif », c'est sûrement de l'ironie. L'ironie peut être intentionnelle, ou on peut découvrir après coup que ce qu'on a dit est ironique. Et Dieu lui-même, l'auteur de la vie, le créateur de la race humaine, maîtrise à merveille l'ironie. Alors, il s'en sert non pas pour raconter de mauvaises blagues ou pour mentir, mais pour illustrer sa grandeur, sa propre grandeur, sa propre gloire, et pour montrer à l'homme un peu sa place, sa situation devant lui. L'apôtre Paul a fait tout un commentaire dans sa première lettre à l'église de Corinthe sur l'ironie de Dieu. Dans sa faiblesse, il est fort, dans sa folie, il est sage. Sa faiblesse est plus puissante que la puissance de l'homme et sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Et l'apôtre nous dit dans cette lettre-là que la puissance de Dieu ainsi que la faiblesse de Dieu, la sagesse de Dieu ainsi que la folie de Dieu se montrent de manière on ne peut plus éclatante à la croix, en Christ crucifié. J'aimerais juste revenir brièvement sur ce passage dans Matthieu 27 qui raconte la crucifixion de Jésus. J'aimerais que nous nous attardions sur quelques ironies de la croix. Alors, ce n'est pas moi qui ai repéré ces ironies, je m'appuie fortement sur une étude d'un théologien canadien qui a grandi au Québec, Donald Carson, qui a écrit tout un livre sur ces ironies. Alors, dans le texte que l'évangéliste Matthieu nous a donné, il y a plusieurs niveaux d'ironie. Et par là, le Saint-Esprit, nous le croyons, qui a inspiré ce texte, veut nous montrer la suprématie de Dieu, la grandeur de sa bienveillance à l'égard de l'homme. Alors, voilà trois titres qui peuvent guider un peu notre méditation de ce soir. En s'humiliant, Jésus est réellement le roi. Deuxièmement, en se livrant à la mort, Jésus est le plus puissant de tous. Et troisièmement, en refusant de se sauver, Jésus sauve une multitude. On va commencer avec ce premier point. Donc, en s'humiliant, Jésus est réellement roi. Au début de notre passage, nous sommes un peu dans le prétoire romain, avec les soldats qui sont chargés de garder Jésus. Et tout au long de la crucifixion de Jésus, les gens vont se moquer de lui. C'est un fait constant dans ce passage. Jésus a été ridiculisé. Il s'est trouvé en butte aux moqueries des soldats, des passants, des chefs des prêtres. Chaque groupe s'est servi de l'ironie pour se moquer de Jésus. Alors, à titre d'exemple, les versets 27 à 29 nous disent « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi !» des Juifs. C'est vrai que dans les versets précédents, Matthieu nous a raconté le procès de Jésus et tout le procès a tourné autour de la question de l'identité de Jésus, de cette question de si Jésus était vraiment le roi des Juifs. Et ces soldats se moquent de sa prétendue royauté. Pourtant, dès le début de cet évangile de Matthieu, Matthieu a montré à ses lecteurs comment Jésus est vraiment celui qui devait venir. Le roi choisi par Dieu qui devait venir pour restaurer son peuple, pour gouverner son peuple, pour lui faire du bien. Les généalogies du chapitre 1 nous montrent que Jésus est dans la ligne d'Abraham, de David. Les rois mages qui viennent pour adorer le roi des Juifs à Noël disent voilà, qu'ils sont venus pour adorer le roi. Sur la montagne, Jésus, le serment sur la montagne, Jésus donne sa loi, la loi royal, lui montre comment vivre dans son royaume. Et son royaume vient avec puissance. Ce roi en découvre victorieusement avec la puissance du mal, de la maladie et de la mort. Ces miracles, ces signes le montrent bien. Le comble, c'est que ces soldats croient eux-mêmes user de l'ironie. Salut, roi des Juifs. Mais ils n'y croient pas une seconde. Mais c'est doublement ironique car Jésus est réellement le roi. Sans le savoir, malgré eux, ces soldats annoncent la vérité. Jésus est le roi des Juifs. Et c'est sa résurrection qui va le prouver. Dieu ressuscite son roi d'entre les morts pour déclarer haut et fort sa royauté, non seulement sur les Juifs, mais sur l'univers tout entier, sur tout l'ordre créé. Jésus dira à ses disciples, juste avant de s'en aller, juste avant son ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est le pouvoir que le Père lui a donné d'avoir en lui-même, le pouvoir de juger tout homme et le pouvoir de donner la vie à tous ceux qui se confient en lui. Alors c'est clair que Jésus n'est pas un roi comme les autres. Nous l'avons vu ce dimanche passé avec ce passage qui raconte le lavement des pieds des disciples. Jésus n'est pas comme nos monarques modernes qui veulent à tout prix s'agripper au pouvoir, quitte à massacrer la population. Tant s'en faut. Jésus est un roi serviteur qui s'incline pour servir ses sujets. Il se rend tout petit pour les servir, pour faire d'eux ses sujets. C'est un royaume dont l'échelle des valeurs est à l'opposé de celle du monde. À la croix, le roi dont on se moque de sa royauté est réellement le roi. Et dans son humble service, dans sa mort humiliante, il est en train de montrer la vraie grandeur de son règne, de sa royauté. Et en effet, sa royauté, qui se manifeste dans l'humilité, est un exemple pour nous tous. Chez le chrétien, le disciple de Jésus, l'humilité est la vraie grandeur. Lorsqu'on se rend compte du service le service que nous avons reçu, nous ne pouvons que servir humblement à notre tour. Alors, en se livrant à la mort, Jésus est le plus puissant de tous. Ensuite, Matthieu, par plein de petits détails, nous montre la faiblesse de Jésus. Jésus est seul, abandonné, exposé, nu, incapable même de supporter le poids de cette croix. Et finalement, il mourra. Au verset 39, les passants l'insultent et se moquent de lui en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » En somme, ils lui disent « Tu as dit que tu étais puissant, ben, montre-le maintenant. Regarde, finalement, t'es d'une impuissance incroyable. Pour qui tu t'es pris au juste ?» Et lui lance ce défi, le croyant incapable de le relever. Et lorsque ces passants parlent du temple, ils se réfèrent à un épisode où Jésus, après avoir chassé des commerçants du temple, a dit aux responsables qui contestaient cette autorité. Il leur a dit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Mais Jésus, quand il parlait du temple, je cite, « parlait du temple de son corps. » Ces passants le croient faible, impuissant, incapable de se sauver. On porte à faux avec ses propres paroles. Mais cette prophétie que Jésus a donnée était tout sauf farfelue. Elle est en train de s'accomplir là, en ce moment même. Loin d'être prise au dépourvu par des circonstances qui le dépasseraient, Jésus est en train de donner librement, volontairement, généreusement sa vie, de se livrer à la mort, d'obéir parfaitement à son Père. Et trois jours plus tard, il se relèvera, il reprendra sa vie. L'évangile de Jean nous dit, Jésus le dit, personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a fait le lien entre le temple de Jérusalem et son corps, parce que son corps allait remplacer ce temple-là. Le temple était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, le lieu de sacrifice, des sacrifices qui permettaient à un Dieu trois fois saint de vivre parmi un peuple rétif, pécheur et infidèle. Alors les passants voulaient que Jésus descende, montre sa puissance en descendant de la croix, mais c'était en restant sur la croix qu'il a agi avec puissance. Il est devenu en son corps, donné en sacrifice, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, de tous ceux qui se confient en lui. Grâce à ce qu'il a fait sur la croix, nous pouvons tous rencontrer Dieu en Jésus-Christ. C'est la porte, c'est le chemin qui mène au Père, ce Père qui nous aime plus qu'on ne le pense. La fin de notre passage le montre bien. Au verset 51, le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile empêchait un libre accès pour tous à Dieu, et symboliquement, ce déchirement montre que Jésus a puissamment changé la donne. Et dans sa faiblesse, Jésus nous laisse un exemple à suivre. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. La vie chrétienne normale est marquée par la mort à soi-même, par la mort à notre égoïsme, à nos ambitions orgueilleuses, à notre mépris des intérêts des autres. Ce n'est pas chose simple, hein? Mais l'Esprit de Dieu en nous opère ce changement, ce cap. Et cette mort à nous-mêmes va à l'encontre des valeurs de ce monde. Mais nous avons la confiance quand Jésus lui sera relevé avec puissance d'entre les morts, justifié, acquitté, rendu à la vie à tout jamais. On va finir avec cette troisième ironie. Il y en a plein dans ce texte, il y en a d'autres, mais voici une troisième. En refusant de se sauver, Jésus sauve une multitude. Au verset 41 et 42, nous lisons « Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qui descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Ces gens le voient sur la croix. Ils repensent à tout ce que Jésus a fait dans sa vie. Il en a sauvé d'autres. Ces gens qui lui sont quand même hostiles ne nient pas tout le bien qu'il a fait pendant sa vie, pendant son ministère. Ils pensent sans doute aux guérisons. Il a guéri les malades par ses paroles, par ses simples paroles. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts par sa simple parole. Il a renvoyé des démons par une simple parole. Il en a sauvé d'autres. Alors qu'en est-il de lui? Il se moque de lui. Il n'en serait pas capable. Mais l'ironie de l'affaire, c'est que Jésus sur la croix, au moment de ses moqueries, est justement en train de sauver son peuple. Dès le début de son évangile, il en a été question. Un ange avait demandé à Joseph de lui donner le nom Jésus, un nom qui veut dire Yahvé sauve. Parce que c'est lui qui allait, je cite, sauver son peuple de ses péchés, de ses fautes. Alors Jésus aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu choisir d'enlever les clous et descendre. Il se serait sauvé. Mais il n'aurait sauvé personne d'autre. C'est justement en restant sur la croix, en se donnant sur la croix, qu'il sauve son peuple de ses péchés. Et cela de deux manières. Lors du dernier repas, Jésus a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez manger, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » À la croix, le sang de Jésus a coulé à la place de notre sang. Sa vie a été donnée à la place de notre vie. Jésus s'est chargé de nos fautes. Il a pris sur lui la peine que nos fautes, nos rébellions de tous les jours, notre indifférence à l'égard de Dieu, de ce que tout ça mérite. Et c'est ainsi qu'il a satisfait la justice divine. Alors si nous recevons une amende quelconque, peu importe qui remplit le chèque, tant que l'argent est payé, l'amende est couverte, la justice est satisfaite. Et sur une toute autre échelle, Jésus a la monnaie qu'il nous faut. La monnaie que nous n'avons pas. La monnaie d'une vie humaine juste, innocente et pure aux yeux de Dieu. Et Jésus peut sauver du jugement de Dieu tous ceux qui se confient en lui, qui cherchent en lui un refuge. Les chefs religieux pensaient que celui qui avait sauvé tant de gens du mal, de la maladie et de la mort, était incapable de se sauver. Mais en se livrant à la mort, Jésus a vaincu avec puissance l'ennemi qui nous guette tous, la mort éternelle, le jugement de nos fautes. Et aussi en se donnant à la croix, Jésus nous délivre de la puissance du mal dans nos vies aujourd'hui. L'attrait du péché, l'addiction à la désobéissance. En nous graciant, en nous montrant son immense amour, en nous donnant gratuitement son plein pardon, en nous donnant son esprit, Dieu a changé fondamentalement nos cœurs, la disposition de nos cœurs, pour que nous commencions à détester ce qui lui déplaît, et pour que nous aimions ce qui est de lui, ce qui ressemble à son Fils. L'évangile de Jésus-Christ crucifié, l'évangile de la grâce, de ce sacrifice libérateur, nous transforme à notre tour pour que nous ayons envie de mettre les intérêts des autres devant les nôtres, pour que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Heureusement que Jésus n'a pas écouté ses moqueurs. qui ne s'est pas sauvé, pour que nous puissions être réellement sauvés, aujourd'hui et dans l'éternité. Alors, dans ces moqueries différentes, les hommes sont usés d'ironie à l'égard de Jésus sur la croix. Ils se croient supérieurs à lui. Ils se permettaient de tourner en ridicule ses mots, son ministère, sa vie. Mais dans une ironie qui surpasse de loin celle des hommes, qui triomphe sur celle des hommes, Dieu se montre à la fois suprêmement souverain et suprêmement bienveillant à l'égard des hommes moqueurs. C'est le comble de l'ironie qu'au moment où l'homme mettait à mort le Fils de Dieu, Dieu montrait à l'homme tout son amour. Au moment où on voit de manière on ne peut plus claire la vraie nature du péché de l'homme, c'est-à-dire la haine de Dieu, son désir de se débarrasser de lui, Dieu nous montre l'immensité de sa grâce à notre égard. Cela de manière planifiée, préméditée, selon sa bonté éternelle et souveraine. Si nous voulons comprendre ce que c'est le péché qui habite nos cœurs, nous n'avons qu'à regarder à la croix pour voir toute sa noirceur, toute sa haine, sa véritable nature. Mais si nous voulons apprécier la grandeur de la bonté de Dieu, l'immensité de son amour, la profondeur de sa bienveillance, la beauté de sa justice, la douceur de sa clémence, ben nous n'avons qu'à regarder au même événement. En fait, on ne peut pas comprendre ou apprécier l'un sans apprécier ou comprendre l'autre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans cette lettre, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, qu'il ne voulait connaître parmi eux rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est cet homme et c'est ce moment dans l'histoire humaine qui nous montre sa puissance, sa sagesse, mais aussi notre faiblesse et notre folie. L'apôtre Paul exhorte les Corinthiens en leur disant que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Et au pied de la croix, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Mais nous pouvons en effet être joyeusement fiers de Jésus et pleinement reconnaissants à notre bon Père Céleste qui nous l'a donné. Je vous invite à la prière. On va prier. En effet, notre Père, nous voulons nous placer au pied de la croix. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Nous y voyons notre péché, notre haine, notre indifférence à ton égard. C'est nos fautes qui l'ont cloué à cette croix. Et Père, tu l'as donné pour que nous puissions être libérés de cette charge, acquittés, justifiés, purifiés. Et Père, nous voulons te louer pour ton amour, pour le don de ton Fils. Merci de ce que, dans ce moment qui montre tellement bien notre haine à ton égard, tu nous as tellement aimés. Et Père, nous voulons te demander de vraiment toucher nos cœurs, donne-nous d'être pleinement reconnaissants pour tout ce que tu as fait en Jésus. Et puis cet amour transformer nos cœurs pour que nous ayons la joie de te connaître, la joie de te servir et la joie de servir nos frères et sœurs. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.